Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec le magnifique, l'incommensurable, le fabuleux, le magicien qui fait passer le roux au blond vénitien, Julien Vénesson.
Oh, c'est de pire en pire.
Mais j'ai réfléchi à celle-là, j'y ai pensé tout à l'heure.
Et incommensurable, Rudy, tu connais ce mot, toi?
Ouais, j'étais fort en français à l'école.
Impressionnant, impressionnant.
Donc, merci Julien d'être là ce soir.
Merci à toi, bonjour à tous.
Donc Julien, j'ai pu voir, donc première actualité, j'ai pu voir sur Facebook que ça y est, tu t'étais inscrit au Giga Gym dans le 13e et que ça y est, tu avais commencé à t'entraîner pour de vrai.
Ah non, je suis juste allé voir les machines. Donc je suis allé voir les machines parce qu'il y a vraiment beaucoup de machines et c'est assez sympa. La salle elle est vraiment bien.
Bah, d'après les photos, elle a l'air super la salle. Hein.
Ouais, j'ai pris des photos pour montrer un peu à tout le monde. Je pense que je mettrai d'autres photos de machines à l'occasion. C'est vrai que c'est une super salle pour les gens qui habitent dans le coin. C'est vrai que c'est top quoi. Donc il y a par exemple là aujourd'hui je suis allé voir un peu pour les cuisses, les presses. Il y a dans la salle 5 ou 6 presses à cuisses dans la salle, des presses différentes. On peut vraiment faire de tout, de l'unilatéral, du hack squat, de la presse classique. C'est vraiment.
Donc pour ceux qui voudraient voir Julien en action, il y va vers 14h. Entre 3 et 4 fois par semaine. Franchement, si vous y allez le lundi ou le mardi, il y a de grandes chances que vous le voyez. À 14h. Hein.
Bah, ils peuvent toujours essayer.
Hein. Oh, mais là, je suis fort, je suis bien niqué. Bon, la salle a l'air super, et donc si vous y allez vers 14h, vous verrez sans doute Julien Vénesson devenir écarlate. Donc, il y avait une autre actualité. Donc, Julien, donc, tu es rédacteur en chef de Alternative Bien-être, donc un magazine suisse, je crois.
Oui.
Et donc, il y a une offre en ce moment pour s'abonner.
Tout à fait, Rudy. Bah, d'ailleurs, dès que tu as su ça, tu t'es précipité pour t'abonner.
Bah oui, parce que j'ai trouvé ça très peu cher. Donc, l'offre, c'est de 19€ par an pour un numéro par mois. Donc 12 numéros par an pour 19€, donc sous format numérique, donc par email, à la façon des e-books. Donc 19€, c'est vraiment pas cher. Donc on mettra le lien à côté du podcast pour ceux qui veulent s'abonner, mais c'est sûr que là, c'est une affaire. Hein.
On peut préciser que c'est un vrai magazine, hein, il fait 28 pages. Et donc on est toute une équipe hein, à s'occuper de ça, une équipe que je coordonne. Mais voilà. Et puis on peut aussi, si on le souhaite, on peut recevoir la version papier, moyennant un supplément pour les frais d'impression, parce que ça coûte quand même un bras. Donc je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est à 37€ si on veut recevoir les versions
papier. Ouais, j'ai à peu près le double, mais bon, maintenant on est à l'ère de l'informatique, donc si on peut le recevoir en numérique, autant y aller. Mais donc c'est une belle promotion pour le lancement.
Tout à fait. Oui, alors c'est oui, effectivement, c'est une promo, c'est pour le lancement.
Donc voilà, et je voulais faire un dernier petit actu. Donc j'ai reçu mes t-shirts Super Physique, les nouveaux. Donc comme j'avais dit, j'avais testé un nouveau truc, donc je suis assez content du résultat. Donc normalement, j'ai fait les photos ce week-end, et ce sera en vente dès mardi sur la boutique.
Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a un nouveau t-shirt chaque semaine, à chaque podcast.
Bah, parce que à chaque fois, je le reçois pas, à chaque fois, c'est décalé.
Oh là là.
C'est ça le truc. Et là, ce coup-ci, je les ai, et il manque que les photos, que quelqu'un me prenne en photo.
Bon, bah.
Donc, bah comme je vois quelqu'un que ce week-end, et bah, je fais des photos que ce week-end.
Faut que tu demandes à une jolie blonde, hein.
Alors, si une jolie blonde veut bien venir faire des photos, je vais te donner mon adresse.
Donc, Rudy s'entraîne vers quelle heure, Rudy? Toi, c'est en fin de matinée, hein.
Oui. On s'entraîne à 10h30.
Vers Annecy, quoi, c'est ça?
Non, sur Krypton. C'est sur Krypton, l'attraction n'est pas la même.
Je donnerai l'adresse de la salle la prochaine fois.
Ça m'étonnerait que tu la trouves, hein, mais bon.
Il est timide, il ne peut pas montrer qu'en fait... bon, hein. On sait très bien que les photos sont photoshopées, mais bon.
Bah évidemment, en plus les photos sont merdiques, elles sont faites avec un iPhone. Et à chaque fois, elles sont faites avec le premier voisin venu, parce qu'il n'y a jamais les mêmes personnes.
Et d'ailleurs, même je pourrais rajouter que pour ceux qui ne te connaissent pas, qui t'ont jamais rencontré, et qui regardent tes photos sur Facebook, ils peuvent avoir l'impression que t'es musclé ou quelque chose comme ça. Et en fait, les photos ne rendent pas du tout honneur à Rudy. Il faut savoir que, en vrai, il est beaucoup plus imposant et plus harmonieux aussi, je trouve. Donc j'attends qu'il apprenne à faire des vraies photos parce que moi je clique bon, même.
Julien, c'est d'accord, je te fais un autographe sur les pecs.
un tatouage de ton.
RYC sur le pec droit.
Exactement.
Bon, sans rire. Nous attaquons maintenant les questions du podcast. Alors, première question pour toi, Julien. Est-ce toxique pour le foie d'avaler beaucoup de compléments alimentaires sous forme de capsules et de gélules, vitamines, soins des articulations, oméga 3, thé vert, etc., comme peuvent l'être les médicaments pharmaceutiques?
Bah, déjà, tous les médicaments pharmaceutiques ne sont pas toxiques pour le foie. Il y en a qui le sont, d'autres pas du tout. Si on prend un exemple de médicament très toxique pour le foie, c'est le paracétamol, hein, donc plus communément appelé doliprane. Donc ça, c'est vraiment dur sur le foie. Mais bon, c'est pas le cas de tous les médicaments, loin de là, et heureusement. Mais en ce qui concerne les compléments alimentaires, il y a très très peu de produits qui sont dangereux pour le foie en eux-mêmes. Alors il y a certaines choses qui vont être dangereuses pour le foie si on a déjà une maladie hépatique, par exemple une insuffisance hépatique ou une hépatite ou quelque chose comme ça. C'est vrai que par exemple si on consomme beaucoup de protéines, ça peut fatiguer le foie. Si en plus il est déjà malade, c'est pas très bon. Mais c'est pas la protéine qui rend le foie malade, c'est simplement parce que le foie c'est l'endroit où le corps traite les acides aminés pour les découper, enfin découper les protéines en acides aminés puis reformer de nouvelles protéines. Donc ça c'est quelque chose qui a lieu constamment. Donc plus on est sportif, plus on mange de protéines, plus ces actions au niveau du foie elles sont importantes et des fois ça peut se voir un petit peu dans les analyses. Ça veut pas dire qu'on est malade. Et en tout cas c'est pas dangereux pour le foie de prendre des vitamines qu'on trouve dans le commerce, du thé vert, c'est même l'inverse, c'est plutôt protecteur pour le foie le thé vert. Donc voilà, en tout cas la plupart des compléments basiques, parce que après peut-être que si on parlait d'un produit spécifique je pourrais donner plus de renseignements, mais pour la plupart des choses qu'il y a par exemple sur ta boutique ou qu'on trouve dans la plupart des compléments alimentaires, il n'y a pas de danger notable sur le foie.
Non, mais c'est vrai que souvent on dit ouais, les compléments alimentaires c'est pas sain, nanana, c'est dangereux et compagnie, alors que bon, la plupart du temps, à moins d'acheter n'importe quoi.
Bah écoute, hein, moi j'avais fait un article là-dessus sur mon site sur le nombre de cas d'accidents, de toxicité qu'il y avait par an avec les compléments alimentaires aux États-Unis. En plus, il faut savoir qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus permissif la législation, et il y avait très très peu d'accidents si on compare ça aux médicaments. Il y a aucun mort lié à une intoxication par des compléments alimentaires. Alors que par des médicaments, c'est très très fréquent d'avoir des décès à cause de médicaments. Voilà, c'est vraiment pas comparable. On n'est pas dans le même domaine, quoi.
Donc non, les compléments alimentaires, en règle générale, ne sont pas dangereux pour le foie.
Tout à fait.
C'est encore une fausse croyance.
Ouais.
Donc ceux qui préfèrent manger du poulet aux hormones. Et nous dire que les compléments alimentaires sont dangereux pour le foie, ben peuvent rester au poulet aux hormones. C'est cadeau. Alors, deuxième question. Donc, question d'entraînement. Est-il plus efficace de regrouper les triceps dans la même séance que les pectoraux, sachant qu'ils seront déjà fatigués, ou doit-on plutôt éloigner sa séance triceps de sa séance pec? Donc, il y a une règle qui permet de faire sa répartition d'entraînement. Donc c'est voir en fonction de ses points faibles et de ses points forts pour déterminer le meilleur ajustement, la meilleure organisation possible dans la semaine. Donc deux cas possibles là sur la question. J'ai les triceps en points forts et les pectoraux en points faibles. Donc oui, c'est mieux de faire les triceps après les pectoraux pour qu'ils ne gênent pas la récupération, sachant que les triceps vont beaucoup intervenir dans l'exercice de pec. Donc là, il n'y aurait pas de contre-indication à faire les triceps après les pectoraux. Par contre, si on a les pectoraux en point fort et les triceps en point faible, dans ce cas-là, mieux vaut faire les triceps dans une autre séance, à part, où ils ne seront pas pré-fatigués par les pectoraux, par les exercices de pectoraux, pour leur consacrer toute son énergie. Donc en règle générale, on voit bien que si on a les triceps en point faible et qu'on force dessus pour les développer, les exercices de pectoraux vont un peu en pâtir, mais bon, c'est la règle qu'on explique dans les articles super, donc rubrique entraînement sur le site, où on ne peut pas mettre l'accent sur tout en même temps et où on doit faire quelques sacrifices en fonction de ce qu'on veut plus ou moins développer. Et donc après, on peut faire la même comparaison si on veut faire, si on dit est-ce qu'il faut faire les biceps avec le dos Donc ça dépend si on a le dos ou les biceps en point fort. Donc après, il n'y a pas une règle universelle pour tout le monde. À chacun d'adapter en fonction de donc, ses points forts, ses points faibles et de ce qu'il veut développer en priorité. Julien ?
Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord.
Julien, est-ce que tu fais les triceps après les pectoraux ou après le dos ?
Ah bah moi, je peux pas trop...
Ah si, tu viens de commencer l'entraînement.
Je m'entraîne à vide déjà, je mets pas de poids pour pas trop me fatiguer. Et puis je regarde faire les autres, hein. Et puis en même temps je bois pour donner l'impression d'être fort.
Et puis tu fais du téléphone.
Exactement, je joue au démineur sur mon téléphone portable.
Ça c'est vieux comme jeu, ça existe encore?
Je sais pas, ouais, peut-être. Il y a peut-être des fans.
Donc ouais, moi par exemple je fais les triceps en dehors des pecs. Mais j'avais remarqué que quand je faisais les triceps après les pecs. Et ben, j'étais meilleur au pec la semaine d'après parce que je récupérais mieux des triceps en laissant plus de temps. Mais donc, ils se développaient moins aussi parce que je ne consacrais pas une séance pour eux.
Et ben, effectivement, je dois dire que dans ma jeunesse, quand je m'entraînais régulièrement, j'ai fait la même observation que toi. Donc, je coupais aussi de la même manière.
Bon, bah, nous avons répondu à la question. Donc, j'aime bien la question suivante. Parce que je pourrais y participer aussi, même si c'est diététique et santé.
Ah.
Que pensez-vous ? Des diètes cétogènes cycliques, donc en clair, où on alterne des jours sans glucides et avec glucides,
ouais.
Dans le cadre du powerlifting, dans le but d'être plus sec et plus fort à la fois. Au maximum, ne rigole pas. Pour pousser au maximum sa force relative. Le fait d'être sans glucides n'affectera-t-il pas les performances en force ? Jamie Lewis, donc on donne un exemple, powerlifter recordman du monde en moins de 82, pesait 200 livres, donc 90 kilos, quelques jours avant sa compétition. Et donc, a réussi à perdre, donc on calcule 8 kilos, qui a 9 kilos, très rapidement, sans affecter ses performances. Donc, je me demandais, pour un entraînement en force, par rapport à un entraînement en musculation pour l'hypertrophie, comment doit-on changer notre consommation de glucides, sachant que nous n'utiliserons pas les mêmes filières énergétiques? Donc, on va commencer par la première partie.
Ouais, je pense quand même, faut quand même dire un truc là. C'est en combien de temps qu'il a perdu 8 kilos le champion?
Bah, je sais pas, a priori très rapidement. Non, mais de toute façon, on va pas faire d'amalgame.
Mais... Ah ouais, non, mais c'est ce que j'allais dire. Faut quand même, y a un moment où faut se réveiller quoi. Si quelqu'un perd 8 kilos en un temps record et qu'en plus ses performances ne baissent pas, faut se poser des questions quoi. Il prend pas que des oméga 3, hein. Ça c'est sûr. Il y a pas besoin de, j'ai pas besoin de le connaître.
Je prends du curcuma. J'en fais beaucoup la pub.
J'ai pas besoin de le connaître. J'ai pas besoin de savoir ce qu'il a mangé pour savoir que c'est pas naturel quoi. Donc ça c'est sûr. Déjà quand je prends, parce que j'ai pas mal de boxeurs qui ont avec qui j'ai eu pas mal de contacts qui ont suivi un peu les conseils du bouquin. Et déjà, la méthode traditionnelle qui consiste à perdre du poids rapidement, c'est en plus de faire un régime, de se déshydrater à la fin pour perdre de l'eau, puisque c'est ce qu'on peut perdre le plus rapidement, c'est de l'eau. Et quand on fait ça, bah effectivement, on arrive à perdre 3-4 kilos en une journée ou deux. Mais par contre, quand on arrive sur le ring, on vaut plus rien parce qu'on est déshydraté. Donc quand on est déshydraté, bah toutes les performances s'effondrent. C'est vraiment le truc à ne pas faire. Et ceux qui ont de meilleurs résultats, c'est ceux qui sont plus malins, qui s'y prennent à l'avance, qui font leur préparation bien calculée, qui perdent du poids très progressivement. Et quand ils arrivent au niveau de la compète, ils sont d'une forme olympique par rapport à ceux qui viennent de faire un régime drastique pendant les jours précédents.
C'est ce que tu dis, parce que souvent, on voit les champions de MMA, parce que j'ai entraîné un mec du MMA pendant plusieurs mois, et je vois, il me disait, ouais, c'est ce qu'ils appellent le cutting, les mecs, ils perdaient 6-7 kilos la dernière semaine, et puis ils arrivaient en forme. Et le mec, il me disait, ouais, comment ils font et tout? Et je dis, non, mais je lui dis, écoute, là, ils sont chargés, les mecs, hein. Je dis, toi, tu fais ça, tu vas crever, hein.
Ouais, non, mais justement, en tout cas, au naturel, tous les combattants que j'ai eu, à qui j'ai expliqué ça et qui ont fait l'essai, m'ont tous dit, ils ont fait des super résultats en compète après, et voilà, ça se vérifie facilement, quoi. Bon, c'est le même principe pour la muscu, hein.
Donc, que penser des diètes cétogènes cycliques dans le cadre du powerlifting, dans le but d'être plus sec et plus fort à la fois?
Tu veux répondre, Rudy? T'avais l'air enthousiaste.
Non, mais je sais très bien ce que tu vas répondre.
Bah, ça sert à rien, oui. De toute façon, c'est une mauvaise idée. Déjà, effectivement, une diète cétogène, c'est toujours fatigant. Même si c'est bien fait, il y a une sensation de fatigue. Pourquoi? Parce que la sensation de fatigue, elle dépend du taux de glycogène qu'il y a dans les muscles. Quand on fait un régime cétogène, le taux de glycogène, il est bas. Donc on est fatigué. Donc déjà, si on est fatigué, on n'est pas dans des conditions pour faire de la performance. Le régime cétogène, c'est pas un régime de performance. C'est bien pour ça que dans Nutrition de la Force, il est placé dans la partie compétition, préparation d'une compétition de culturisme ou d'un défilé de photos. C'est pas du tout pour faire de la force. Là, on est, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. Même si on fait des rebonds avec plein de glucides, ça a absolument aucun sens. Ça va provoquer une progression en dents de scie qui au final sera pas du tout bénéfique. Hein.
Donc, on est d'accord, on pourrait dire que c'est de la merde. Non, mais faut le dire, parce que j'aime, on dit des diètes cycliques, donc ça embrouille tout le monde. Donc, c'est une diète sans glucides, ou il y a des jours où on mange des glucides, hein, tout simplement.
Non, mais souvent, les gens veulent découvrir une nouvelle formule magique, comme si demain matin, on allait découvrir quelque chose de... Voilà, le nouveau truc miracle qui rendait sec, musclé, pas fatigué, et qui...
Qui passait de roux à brun, comme par enchantement.
Voilà, et qui en même temps permettait de s'empiffrer comme un âne le week-end. Et ça n'existe pas, quoi. Et ça n'existera jamais, hein. Donc, il y a un moment où faut se reposer quand même sur quelques bases. Si on regarde nos anciens comme Jean Texier, par exemple, qui avait écrit Visa pour le muscle, hein, les célèbres livres que connaissent tous nos amis de notre génération qui ont fait de la muscu. Il parlait de la diététique, donc évidemment il n'avait pas les connaissances de maintenant, mais les grands fondamentaux c'était exactement les mêmes.
Ouais, ça reste.
On a parfait les choses avec des notions sur les acides gras, etc. Mais les concepts de base c'était toujours pareil et voilà, et ça changera pas de demain. Donc remettez-vous-en à ce qui est fiable et prouvé, vous aurez pas de problème.
Donc deuxième question, donc c'était pour un entraînement de force. Ça va Julien, t'es en train de mourir ?
Non, je tousse. C'est le cancer de la gorge.
Bah voilà, ça y est, t'es foutu. j'allais dire une connerie, bon je la dis pas.
Vas-y, on t'écoute.
Pour un entraînement en force, par rapport à un entraînement en musculation pour l'hypertrophie, comment doit-on changer notre consommation de glucides, sachant que nous n'utiliserons pas les mêmes piliers énergétiques ?
C'est pour moi cette question ou c'est pour
toi ?
Ouais,
c'est pour toi aussi.
Ah, tu mets deux questions diététiques.
Non, mais c'est la même, en fait, c'est le même mec qui a posé la...
Ah, d'accord. Bon, bah, faut vraiment qu'il achète Nutrition de la Force, hein. Parce que là, c'est la même chose. Ce que tu manges quand tu manges déjà de la nourriture, tu manges pas simplement parce que à tel moment dans ta journée, tu fais un entraînement qui dure 15 minutes au lieu de 30 minutes. Non, tu manges déjà dans ta journée parce que t'as besoin d'un apport calorique total. T'as besoin d'apporter une certaine quantité globale de protéines, de glucides, de lipides, et c'est déjà principalement ça qui va être déterminant, et pas de savoir si tu fais un entraînement en série courte ou en série plus longue. Donc effectivement, il y a pas de.
Et je voulais revenir sur le sachant que nous n'utiliserons pas les mêmes filières énergétiques. Donc je sais plus dans quel article j'en avais parlé, je crois que c'était celui sur les temps de récup sur le site au tout début.
C'est une bonne remarque, ouais.
C'est qu'on n'utilise jamais qu'une seule filière, tout est un peu imbriqué.
Ouais.
Donc c'est un peu un raccourci de manger par rapport au type de filière. C'est,
Bah, d'ailleurs même.
Surtout qu'on dit un entraînement de force, mais un entraînement de force peut ressembler à un entraînement pour l'hypertrophie hors saison. Moi, c'est ce que je fais pratiquer. Avec une planification aux athlètes que j'entraîne, pour avoir justement une nouvelle base à retravailler en force ensuite, comme j'explique dans l'article Muscles et Force sur le site aussi. Donc voilà, donc après l'alimentation n'a pas à varier sensiblement,
ouais.
Sachant que l'effort est pratiquement le même.
Ouais, c'est clair. Mais effectivement, ce que tu dis sur les filières énergétiques, c'est important. Mais d'ailleurs, je crois qu'on a un graphique sur le site, hein, dans l'article sur la créatine, il me semble, où on peut voir l'utilisation de la créatine phosphate, des glycogènes et puis des acides gras. Et les trois courbes se chevauchent. Hein. Donc même dans un effort très court, on utilise aussi un peu du glycogène et puis après un peu d'acide gras. C'est la proportion qui varie beaucoup selon le type d'effort, mais...
On est d'accord. Alors, petite question d'entraînement. Comment gérer un entraînement lors... Putain, Julien est en train de mourir. Tu vas te par Akuma ou quoi?
Non, mais faut que j'arrête de fumer.
Ouais, on va... Ah, mais là, Julien plaisante, hein, je me précise. Comment gérer un entraînement lorsqu'on ne peut pas s'entraîner de manière ultra régulière? Faut-il faire des gros full body, faire uniquement des exercices de base, laisser tomber certains groupes musculaires? Une question assez dure à répondre. J'ai envie de dire qu'il faut arriver à déterminer, le premier point, à déterminer une routine. Savoir, par exemple, quand est-ce qu'on va pouvoir s'entraîner, combien de fois par semaine on va pouvoir s'entraîner, etc. Donc après, à partir de là, on arrive à déterminer un entraînement type. Donc imaginons que je peux m'entraîner qu'une fois par semaine. Bah, effectivement, je vais juste faire un full body. Donc full body, c'est entraîner tout le corps en même temps. Je vais me concentrer sur des exercices de base, parce que j'aurai pas trop le temps de faire trois exercices pour les biceps et pareil pour les triceps. Et je vais laisser tomber certains groupes musculaires. Disons que je vais pas commencer à chipoter en faisant 5 séries de mollets. Donc voilà. Ouais. Après, si je m'entraîne deux fois par semaine, on peut imaginer un half body, donc moitié du corps par moitié du corps. Et donc après, avoir la répartition, comme on a dit, suivant vos points forts, vos points faibles. Donc là, sans trop de négligence. Et donc après, bah, je pense qu'après, à partir de trois fois par semaine, on appelle ça un entraînement régulier.
On peut dire aussi, pour ceux qui s'entraînent qu'une fois par semaine, que on peut quand même adapter l'entraînement en fonction aussi des points forts ou des points faibles.
Hein. Oui, on peut, mais ça reste assez limité quand même, hein, un full body.
Non, mais on peut faire un full body très axé dorsaux si on a un retard du dos, par exemple, pendant quelques temps.
Ouais, ça, après, ça dépend le temps qu'on a pour faire son full body. Hein.
Ouais, c'est sûr.
Si on a 4 heures, ah ouais, là, on peut... là, on peut tout faire, hein, tranquille. Après, si on a qu'une heure, je pense qu'on va pas mettre d'accent. Mais donc ouais, le premier point, c'est de pour arriver à se faire un entraînement, c'est de trouver une régularité, peu importe combien c'est, mais trouver une routine qui permette après d'établir des bases et de pouvoir s'entraîner et de pouvoir planifier des progressions. C'est un point que j'aborde dans mon ebook justement, c'est que souvent ou même qu'on me pose en coaching, on me dit oui. Est-ce que tu t'adaptes à nous pour faire le programme d'entraînement ou tu vas nous imposer des choses qui ne sont pas faisables? Donc je rappelle que l'entraînement doit s'adapter à votre vie. Et on ne doit pas se dire je vais faire trois entraînements par semaine, planifier un truc et puis au final on voit qu'on n'a pas le temps de faire les trois, on a le temps d'en faire que deux par semaine et puis chaque semaine on en saute un. Donc ça non, si on peut s'entraîner que deux fois, autant faire un programme sur deux fois par semaine, quitte à en faire donc moins. Mais au moins qui nous permettra d'avoir une base et donc de planifier des progressions sur l'exercice qu'on fait, sans pour autant négliger complètement certains muscles. Donc voilà, l'entraînement doit vraiment s'adapter à votre emploi du temps et non être une contrainte, mais vraiment un plus. T'as pas applaudi, Julien? Je crois que t'applaudissais.
Ah, pardon.
Ah, là, là. Quel fan.
Ouais, super. Alors...
Pour finir ce podcast, Julien, que penses-tu des hydrolysats de bœuf?
T'avais pas une anecdote à nous raconter, Rudy?
Voilà, je vais raconter. Ah, il est content. Donc, j'en avais déjà parlé, je crois. Donc, on avait pris de la prod qui s'appelait Carnivore. Quand j'étais aux États-Unis, donc avec mon pote Raph, qui a la marque Peak Nutrition, et Julien Labrecht, donc un athlète sponsorisé aussi par Peak. Et donc, on avait acheté la prod Carnivore pour tester. Donc, l'hydrolysat de bœuf, c'est la marque qui sponsorise Sky Green. Et on s'est dit, bon, allez, on va tester et tout. Et puis bon, bah premier truc, on le met. Et puis, on dilue et tout. Et ça fait bleu, déjà. On se dit, putain, c'est vachement chimique et tout. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on en prend quelques jours et tout. Et puis, au bout d'un quelques jours, il y a un mec qui dit, putain, c'est bizarre et tout, je chie tout vert. Puis, on se regarde et tout. On se dit, putain, c'est bizarre et tout. Puis après, il y en a un autre qui va au chiot, il dit, putain, pareil, c'est tout vert. Alors, je dis, putain, c'est bizarre. Puis un coup, bah, j'ai envie d'aller au chiot, il dit, et tout. Mais vert fluo, quoi. C'était le choc, quoi. Tu dis, putain, mais qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Un truc de fou. Alors, on a vite fini le pot, et puis on en a pas racheté, hein. On savait pas trop ce qu'il y avait dedans, mais là, c'est sûr que ça devait flipper, hein.
Bah, écoute, j'en ai jamais mangé, donc je saurais pas dire. Par contre, hydrolysat de bœuf, c'est des acides aminés, hein. C'est pas un hydrolysat au sens PeptoPro. C'est quand même.
Voilà, ouais, c'est. Pour moi, hydrolysat de bœuf, c'est comme on en vend sur le site, j'en avais mis parce que. En disant que c'était pas terrible et puis ça marche bien, malheureusement.
D'ailleurs, en fait, c'est quoi? C'est un hydrolysat ou c'est des acides aminés?
C'est un. Bah, je sais pas ce qu'il a marqué, j'ai oublié la composition.
Mais... est un complexe d'acides aminés, donc c'est des acides aminés.
Ouais, c'est un. Mais bon, c'est hydrolysable, c'était la prose que j'avais acheté, c'était carnivore.
Ouais, bah là il y a écrit est un complexe d'acides aminés, donc c'est des acides aminés.
Ouais, bah de toute façon.
Si c'est des acides aminés, en gros, ça sert pas à grand chose, quoi. Hein. Que ce soit du bœuf.
Et sinon, concrètement, est-ce que le bœuf apporte quelque chose de plus, hydrolysa ou concentra ou ce qu'on veut?
Bah non.
De plus ou de mieux que la whey ou la caséine ou la protéine d'œuf?
Bah non, il y a une légende qui dit que le bœuf ça rend fort. Faut quand même savoir que ça c'était des campagnes publicitaires qu'il y avait il y a 50 ans. Et qui visaient à promouvoir en fait l'industrie bovine, comme il y a eu la même chose pour l'industrie laitière. Quoique pour l'industrie laitière, ça a toujours cours, mais pour l'industrie de la viande, il y a une époque, c'était vraiment l'explosion. Les gens avaient après la guerre, etc. On avait de nouveau des moyens d'acheter de la viande, donc c'était vraiment, ça représentait vraiment quelque chose. Et donc c'est vrai qu'on a fait croire aux gens que la viande ça rendait fort. Et d'une certaine manière, pour certaines personnes, c'était vrai. Pourquoi est-ce que la viande, ça peut avoir des effets au niveau de la forme et des muscles? Premièrement, parce que c'est riche en fer. Et c'est vrai que si on manque de fer, bah, comme c'est une bonne source de fer, ça permet d'avoir un apport rapide. Et le fer, il est utile pour l'oxygénation des muscles, pour la contraction, etc. Donc c'est vrai que c'est important. Mais bon, normalement, on n'est pas censé manquer de fer, déjà, premièrement, et c'est probablement le cas de la majorité des pratiquants de muscu ne manquent pas de fer. Et le deuxième point, c'est que dans la viande rouge, pas spécialement blanche, mais quand elle est rouge, il y a un petit peu de créatine. Et on connaît tous les vertus de la créatine. Mais bon, néanmoins, pour avoir suffisamment de créatine dans de la viande pour que ce soit efficace, il faut quand même en manger un sacré paquet. Donc voilà, tout ça a contribué à donner l'image de la viande telle qu'on l'aperçoit encore aujourd'hui, même si c'est de moins en moins l'image qu'elle renvoie, mais bon, ça l'est toujours un peu. Donc c'est pas basé sur grand chose de sérieux, ni de scientifique, ni de valable, ni de... Voilà, mais...
Encore une légende urbaine.
Ah, un petit peu, hein, ouais. Moi, ce serait plus intéressant si on arrivait à nous proposer des hydrolysats de protéines de poisson, par exemple.
Pourquoi ?
Parce que les protéines de poisson, on sait que... Je parle pas d'acides aminés, là, pour le coup, ce serait bien que ce soit des vrais hydrolysats. Ou même un hydrolysat de blanc d'œuf, par exemple, mais bio, ça existe pas, ça aussi. Après, techniquement, je sais pas quelle est la difficulté, mais...
Qu'est-ce que ça apporterait de plus?
Le poisson, on sait que dans le poisson, il y a certains peptides qui sont favorables à la santé artérielle, par exemple, ça a tendance à relâcher les vaisseaux sanguins, c'est bon pour... Donc c'est bon pour le système cardiovasculaire, en dehors de la teneur en oméga 3. Donc ça c'est intéressant. Et donc qui dit bonne santé dit quand même de bonnes conditions pour faire du muscle. Hein. Donc moi je trouverais ça intéressant. Et puis il y a aussi le fait que comparativement aux protéines laitières, si on avait des équivalents à base de poisson ou d'œufs biologiques, ça pourrait permettre à tous les gens qui sont intolérants aux protéines de lait ou même qui veulent ne pas trop en manger pour des raisons de santé. Bah, ça leur donnerait une alternative, alors qu'actuellement, dans les protéines en poudre...
Oui, il y a parfois d'alternatives.
Voilà, le standard, ça reste la protéine de lait, parce que c'est facile de lui donner bon goût, ça se mélange facilement.
Alors là, la protéine de poisson, déjà, l'odeur, je sais pas comment la masquer. Hein.
Ouais, bah ça, après, c'est un autre problème, mais bon, voilà.
Et de la protéine d'Akuma?
Non, la protéine d'Akuma, ils ont essayé déjà, et ça, il y a trop de poils, après, c'est pas bon,
ça colle aux dents.
Tu t'étouffes un peu, c'est pas top.
Bon, bah, mais merci Julien pour ta réponse.
Bah, je t'en prie Rudy.
J'avais oublié. Donc il reste encore 20 jours pour participer au concours Super Physique PowerTech France. Donc PowerTech est notre partenaire matériel, donc présent sur le forum. Donc de développer couché. Donc là on arrive déjà à une petite vingtaine de participants, donc tous les jours je valide des vidéos. Donc je rappelle qu'il y a donc un banc à gagner au tirage au sort d'une valeur de 400 euros. Il y a mes e-books à gagner, il y a des goodies donc super physiques, des t-shirts, des sacs à dos, des serviettes. Et donc pour les premiers, bah forcément, il y a des lots de suppléments. Il y en a au moins pour, je crois, 600 euros, j'ai compté. Donc c'est pas dégueu. Donc voilà, donc n'hésitez pas, il vous reste 20 jours pour exploser vos perfs et venir participer. Donc voilà, donc ce sera tout pour ce soir. Julien, quelque chose à rajouter?
Eh bien, alléluia.
Bon bah sur ce, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas de poser vos questions, rubrique entraînement sur le forum, sujet podcast, donc tout simplement. Donc ça se pose directement dessus, hein, pas ailleurs comme vous le faites d'habitude, et où je vous dis d'aller les remettre sur le forum. Donc voilà, donc sur ce, à la semaine prochaine.
Au revoir.